J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Bartas 107 FM et bonjour Virginie.
Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui Virginie?
Alors aujourd'hui nous allons plonger dans les forêts anciennes avec Hervé Karoff du Parc National des Cévennes. Vieille forêt, forêt mature, il va tout nous expliquer et va nous parler aussi des actions du Parc National pour leur préservation. Et ensuite Aymeric Sulmont nous parlera d'une plante, d'une mousse, d'un lichen, et on vous laissera découvrir ça plus tard.
Donc bonjour Hervé.
Bonjour.
Peux-tu nous rappeler brièvement quelles sont les compétences du Parc National des Cévennes en matière de forêt et quelles sont tes missions au sein du parc?
Alors le Parc National des Cévennes a une charte dont un des 8 axes est de valoriser la forêt, c'est-à-dire notamment promouvoir des sylvicultures permettant d'alimenter la filière bois tout en augmentant le caractère naturel des forêts. On travaille donc en relation avec tous les partenaires forestiers du territoire pour aller vers des forêts multifonctionnelles. Je suis en charge du pôle forêt au sein du Parc National des Cévennes et avec mes collègues, nous avons à la fois un côté réglementaire, il y a une réglementation spécifique aux forêts du Parc National des Cévennes et on délivre ou non des autorisations dans ce cadre. On donne aussi un avis sur les documents de gestion, mais une grande partie du travail consiste plutôt dans du conseil, du développement, de la persuasion afin que les propriétaires et les gestionnaires gèrent leurs forêts dans le respect de la conservation de la biodiversité, des paysages. Conserver la biodiversité dans ces forêts, ce n'est pas qu'une vision altruiste, ça contribue aussi à obtenir des forêts plus saines, plus résilientes et plus résistantes.
Merci Hervé. Et alors du coup, comment définit-on une forêt ancienne?
Alors une forêt ancienne, c'est une forêt qui est forêt depuis une longue période, c'est-à-dire qui n'a pas été défrichée pour de la culture ou pour un autre usage. En France métropolitaine, on considère qu'une forêt qui était déjà forêt au milieu du 19e siècle, à l'époque où la France avait le minimum de forêts, avant les exodes ruraux, la diversification des sources d'énergie et les politiques de reboisement, c'est une forêt ancienne. Ce choix a également une raison pratique. Cela correspond à la date de la réalisation de la carte d'état-major qui permet de voir si à la date des relevés pour cette carte, de 1844 à 1856 chez nous, la forêt existait déjà ou pas. Selon les pays, en fonction de leur histoire forestière, mais aussi des informations disponibles, la date de référence pour déterminer que l'on est en présence d'une forêt ancienne est variable. Par exemple, c'est le début du XVIIe siècle pour les Britanniques qui décidément ne font rien comme nous.
On entend également parler des forêts matures. Est-ce qu'il y a un lien avec les forêts anciennes ?
Alors, c'est-à-dire que les forêts matures sont des forêts qui comportent de vieux arbres qui sont bien au-delà des âges d'exploitabilité habituels. Elles comportent donc des gros bois, du bois mort, des dendromicro-habitats, c'est-à-dire des particularités, les scieurs diraient des défauts, qui sont autant d'habitats pour la faune et la flore, des fentes, des trous, des contreforts. Alors, une forêt mature, elle peut être ancienne, c'est souvent le cas, mais on peut avoir aussi une forêt récente, de moins de 150 ans, qui est mature, car les essences qui la composent ne sont pas longévives et sont au bout de leur cycle biologique avant 150 ans. Ça peut être le cas des sols, des bouleaux, par exemple. À l'inverse, une forêt ancienne n'est pas forcément une forêt mature. Une forêt qui n'a pas été défrichée depuis les Gallo-Romains et qui serait rasée aujourd'hui pour replanter de petits résineux qui font quelques centimètres de haut, resterait ancienne, mais ne serait pas mature. Si par contre la forêt est ancienne et mature, ce qui représente de l'ordre de 1-2% des forêts du territoire, alors on parlera de vieilles forêts. Pour résumer, l'ancienneté renvoie à la continuité de l'état de forêt, qui a un effet très important notamment sur les sols, étant donné que certains usages des Gaulois peuvent encore être décelés dans les sols de parcelles qui sont revenues à la forêt il y a 2000 ans. Et la maturité, elle, renvoie au stade du peuplement forestier, c'est-à-dire avec des vieux et des gros bois.
D'accord. Alors, imaginons, je suis propriétaire d'une forêt cévenole ou visiteur d'une forêt. Comment je peux reconnaître rapidement si je suis dans une forêt ancienne? Est-ce qu'il y a des indices?
Alors, on ne peut pas être forcément sûr à 100%, mais il y a des indices. Si on retrouve des bancelles ou d'autres preuves d'activité humaine, c'est que ce n'est pas de la forêt ancienne. A contrario, certaines espèces peuvent nous aider à identifier des forêts anciennes. Soit les arbres, car il y a un peu plus de chances de trouver des forêts anciennes avec des hêtres ou des sapins qui sont des espèces dryades, plutôt qu'avec des espèces pionnières comme les pins, les saules. Et certaines fleurs comme le muguet, l'oxalis petit oseille, l'anémone sylvie ou encore des lichens peuvent également nous aider à déterminer s'il y a des chances que l'on soit en présence de forêts anciennes. Mais tout cela doit être validé en regardant les cartes de forêts anciennes issues des cartes d'état-major du 19e.
Et donc, sur le parc national des Cévennes, est-ce qu'il y a un recensement de ces forêts anciennes qui existent?
Oui, en effet, les forêts anciennes ont été inventoriées dans le parc national des Cévennes. Alors, ce n'est pas fiable à 100%, car c'est issu d'un travail sur les cartes d'état-major. On a ainsi l'exemple, à l'est de Génolac, de châtaigneraies considérées par une personne qui effectuait les relevés au 19e comme verger, alors que son collègue qui l'a remplacé 10 ans plus tard pour faire les relevés légèrement au nord, les a considérées comme forêts du fait de l'abandon des châtaigneraies et peut-être aussi du fait d'un bio-observateur. Les propriétaires forestiers peuvent se rapprocher du parc national s'ils veulent savoir si leur forêt est ancienne. Et pour ceux qui réalisent des plans de gestion de leur forêt, nous leur proposons un diagnostic écologique qui comprend l'information sur l'ancienneté des forêts.
Et alors, tu viens de nous parler de l'IPAMAC. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'IPAMAC et du coup, en quoi a consisté le projet dont tu viens parler? Est-ce que tu peux nous parler de quelques actions de ce projet?
En effet, l'inventaire des forêts anciennes a été réalisé dans le cadre d'un projet avec l'IPAMAC. L'IPAMAC, c'est l'association des parcs naturels régionaux ou nationaux comme les Cévennes du Massif central. Elle fédère les parcs pour des actions en commun dans des domaines aussi divers que le tourisme, la trame noire ou les forêts anciennes. Et dans le cadre des projets avec l'IPAMAC, le parc a pu participer avec le Centre régional de la propriété forestière à sensibiliser les propriétaires privés à l'intérêt des forêts anciennes et à leur biodiversité. Cela nous a permis aussi d'aller à la rencontre de propriétaires forestiers qui étaient en pleine phase de réflexion pour leur plan simple de gestion, et à leur proposer de les accompagner pour installer une trame de vieux bois. La trame de vieux bois, c'est le maintien, au-delà de leur optimum économique, d'arbres ou de groupes d'arbres, des îlots de sénescence sur 2 à 10 hectares, par exemple. En effet, les capacités d'accueil pour la faune et la flore sur les arbres augmentent fortement quand on est en présence de vieux et gros arbres. Or, les arbres sont souvent récoltés à un âge et un diamètre où ce ne sont que de jeunes adultes peu favorables pour la biodiversité, et abritant peu de dendro-micro-habitats. Dès lors, conserver quelques arbres par hectare jusqu'à leur mort naturelle et quelques îlots par forêt permet de conserver une biodiversité tout en gérant et en exploitant le reste de la forêt.
D'accord. Et dans le cadre de ce programme, est-ce qu'il y a une action qui t'a marqué particulièrement ou que tu as préférée?
Alors, les actions de sensibilisation auprès des propriétaires forestiers avec le Centre régional de la propriété forestière m'ont particulièrement marqué, car on se rend compte, et c'est démontré dans une récente étude sociologique des propriétaires forestiers, que pour beaucoup d'entre eux, le rendement économique en bois de leur forêt n'est qu'une préoccupation secondaire, et qu'ils sont très sensibles au fait de maintenir leur patrimoine, notamment pour pouvoir le transmettre un jour. Et dans le maintien du patrimoine, le maintien de la biodiversité a un rôle très important. Ils sont généralement très ouverts à ce sujet.
Et peux-tu nous parler de quelques forêts anciennes du territoire? Est-ce que tu en as peut-être une qui est préférée? Et si oui, pourquoi?
Alors, les forêts anciennes sont certes minoritaires, 16% du territoire, alors qu'on est à environ 70% de forêts dans le parc. mais cela fait de la surface quand même. J'aime bien les vieilles haies traits comme celle de Mascamarc sur Mont-Lozère, même si elle est de surface réduite. C'est l'ambiance qui est intéressante, les arbres qui ne sont pas des fûts droits calibrés comme pour comme les forêts de Lyons en Normandie pour faire du déroulage. Un ruisseau, des blocs de granit.
Et j'imagine que le parc national va continuer à travailler sur ce sujet. Du coup, quelles sont les prochaines actions sur les forêts anciennes?
En effet, nous continuons à travailler, notamment avec IPAMAC sur les forêts anciennes. Un volet 4 du projet est prévu avec des actions sur le développement de la trame de Vieux-Bois. Cette trame de Vieux-Bois sera notamment développée en forêt privée. Il y aura aussi sans doute en 2023 une troisième édition du Sylvotrophée, qui est un concours qui a pour but de mettre en valeur les pratiques des propriétaires forestiers en faveur des forêts multifonctionnelles, c'est-à-dire qui concilie la production de bois, le maintien des paysages et de la biodiversité, la protection des sols, de l'eau et l'accueil du public.
Et on invite tous les propriétaires forestiers à s'y inscrire. Et justement, est-ce que tu as des petits conseils pratiques en priorité à adresser aux propriétaires forestiers ou à leurs gestionnaires quand ils sont en présence, voilà, quand ils ont une forêt ancienne?
Alors, la première chose à faire, c'est déjà de la conserver comme forêt. On ne crée pas de forêt ancienne, donc toute surface défrichée ou déclassée est une perte définitive. Ensuite, dans ces forêts, encore plus qu'ailleurs, il faut gérer en imitant la nature, miser sur les essences autochtones, préférer la régénération naturelle aux plantations, préférer des sylvicultures à couvert permanent et donc éviter les coupes rases, et enfin maintenir une trame de vieux bois.
Et pour finir, vu que tu es déjà passé par là, est-ce que tu aurais un nouveau petit mot forestier à nous partager ?
Eh bien, ça sera un vœu, étant donné que nous sommes en janvier. Le vœu que nous réussissions collectivement sur le territoire à préserver les forêts malgré les différentes atteintes, dont le changement climatique, en se basant sur des solutions naturelles plutôt que sur des essences exotiques dont l'expérience a montré que les meilleures d'entre elles font parfois illusion pendant quelques décennies avant de montrer leur vraie faiblesse.
Eh bien, merci beaucoup Hervé pour toutes ces informations très intéressantes.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur Radio Barta 107FM et on vous propose avec Margot une petite pause musicale. On rejoint le groupe Dionysos qui décidément aime beaucoup la forêt et nous propose cette chanson Forever Forêt.
Au secours, les animaux, venez, venez me chercher, je vais m'échapper du zoo. Je vous écouterai, ne rien dire, et je penserai à ne pas oublier de vivre. Forever, forever, aux sirènes du bonheur, protéger sa forêt de rêveurs. Forever, forever, forever. Sirène du bonheur, protéger sa forêt de rêveurs forever. Je prendrai mes quartiers dans le tronc d'un conifère. J'inviterai à dîner les hiboux du monde entier. Je les écouterai ululer à tire d'aile. Je n'oublierai plus jamais de vivre. Forever, forever, aux sirènes du bonheur, protéger sa forêt de rêveurs. Forever, 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 aux sirènes du bonheur, protéger sa forêt de rêveurs. Forever, échapper, s'échapper, travailler à son rêve jusqu'à le transformer en la réalité.
Vous êtes toujours sur Radio Bartas, 107 FM, et nous accueillons maintenant Aymeric Sulmont, garde-moniteur au Parc National des Cévennes, qui nous présente sa rubrique Plantes des Bois. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un champignon qui est en lien avec les forêts anciennes.
Tout à fait. Bonjour, du coup. Je voulais vous parler d'un champignon qui est effectivement typique des forêts anciennes et qu'on trouve dans les chênaies, les plus vieilles chênaies du parc. Et voilà, ce sujet des forêts anciennes, c'est un sujet qui intéresse depuis plusieurs années, même plus de 15 ans, le parc des Cévennes. Et on a beaucoup étudié ce sujet. Et on avance petit à petit et on commence à connaître maintenant un certain nombre d'espèces qui sont dites indicatrices de ces forêts anciennes, donc de ces vieilles forêts. Alors Hervé a déjà expliqué un peu comment on détecte une forêt ancienne sur les cartes anciennes justement. On peut aussi se baser sur la présence de vieux arbres. Évidemment, quand il y a des vieux arbres qui dépassent 150 ans, ben on est justement dans le cas des forêts anciennes. Et puis pour certains naturalistes, avec un peu de connaissances, on finit par détecter un certain nombre d'espèces qui se retrouvent essentiellement, pas toujours à 100%, mais la plupart du temps, c'est la présence de ces espèces signe des forêts anciennes. Alors, j'en ai déjà parlé dans deux différentes rubriques. J'avais parlé, par exemple, je crois, d'un champignon très très curieux qu'on appelle l'hydne hérisson, qui est un champignon qui ressemble à une boule de poils et qui pousse sur les vieux chênes. Et là, j'avais envie de vous parler d'un champignon qui est également très intéressant pour plein d'autres aspects que les forêts anciennes, mais ce qui nous concerne là, c'est plutôt les forêts anciennes, c'est le ganoderme luisant. Alors, ce ganoderme luisant, c'est un polypore, c'est un champignon qui se mange pas, qui est dur comme du bois et qui a en plus un goût amer, mais qui est très intéressant quand il est présent dans des forêts. Il ressemble, c'est très curieux, c'est un polypore, on a plutôt tendance à imaginer une console qui pousse à même l'arbre. Une console, c'est comme une applique murale, mais à l'envers. Et là, c'est pas tout à fait ça, c'est un mélange entre une console, mais avec au bout un pied, un petit pied, qui pousse en général au pied des vieux chênes, sur des vieilles racines ou parfois du bois mort. Il a une couleur très particulière, orange, rouge et comme vernis dessus. Et ce champignon est vraiment original. Et il est extrêmement célèbre dans la médecine chinoise et japonaise depuis des milliers d'années, parce qu'il a des propriétés médicinales assez extraordinaires. On l'appelle pour ça d'ailleurs le roi des champignons. Et il est, pour résumer un peu ses propriétés, il renforce le système immunitaire. Mais il a aussi une implication sur la pression artérielle, la détoxication du foie, l'amélioration du sommeil. Il serait très bon contre les virus, ça c'est à la mode en ce moment. Il limiterait aussi le cholestérol, plein de propriétés, mais notamment contre le cancer et les problèmes articulaires aussi, ce qui fait vraiment un champignon un peu qui est très à la mode dans la phytothérapie. Il est assez rare et en fait, les ressources naturelles de ce champignon, cette ressource naturelle-là, elle n'est pas limitée. Alors, récolter un champignon en soi, ça pose pas un problème parce que derrière, on peut le voir ressortir. Quand on récolte un champignon, c'est comme quand on récolte la pomme du champignon, puisque le champignon, lui, il est intimement mêlé au sol ou à l'arbre. Donc, récolter la pomme pose pas un problème. Mais si tout le monde se met à ramasser ce champignon dans la nature, ça va poser un petit souci à fond. C'était un petit détail un peu sur la protection de ce champignon. Je voulais faire un renvoi aussi à un livre qui parle avec beaucoup de précision et beaucoup aussi d'imaginaire sur ce champignon, puisqu'il y a un conte qui se rapporte à ce champignon. C'est le livre de Sophie Lemonnier, qui est une dame qui vit dans le coin, puisqu'elle vit en Cévennes, et qui a écrit un magnifique ouvrage sur une cueillette de savoir et de saveur sur les champignons, aux éditions des Îlots de Résistance. Et c'est vraiment un livre à acquérir sur les champignons, autant pour le côté histoire sur les cueillettes, l'économie, l'écologie, et puis plein d'anecdotes en fait sur les propriétés des champignons, comme sur les histoires qui sont véhiculées par les hommes sur ces champignons. Voilà un petit clin d'œil sur ce bouquin. Et puis, comme ce champignon est extrêmement rare, enfin, c'est assez curieux parce que les chênaies, finalement, dans le parc national des Cévennes, on en a beaucoup dans les gorges du Tarn, et ailleurs, dans le parc, c'est relativement rare, puisque le châtaignier a été énormément privilégié sur toute la partie méridionale des Cévennes. Et du coup, on trouve très peu de chênes. Quand je parle de chênes, je ne parle pas du chêne vert, mais bien du chêne blanc, qui se compose de deux espèces, hein, le chêne pubescent et le chêne sessile. Mais ce chêne blanc qui perd ses feuilles en hiver, c'est lui qui accueille principalement ce champignon, mais on peut aussi le trouver sur chêne vert. Et du coup, voilà, finalement, ce ganoderme luisant, il est peut-être rare en Cévennes, simplement parce que les chênaies pubescentes sont rares, mais on a très peu d'informations, finalement, sur sa présence dans les gorges du Tarn. Alors, on suppose qu'il est, mais on a beau farfouiller ces forêts, on n'en a pas trouvé. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, c'est un champignon qui est parmi d'autres un indicateur de forêt ancienne, et c'est en ça que il nous intéresse. J'ai déjà parlé de plein d'autres champignons indicateurs de forêt ancienne. L'originalité des champignons, comme des mousses et des lichens, c'est que ils sont plus facilement très intéressants pour indiquer une vieille forêt parce que leur présence est visible beaucoup plus longtemps qu'une plante à fleurs, par exemple. Tout à l'heure, Hervé parlait de plantes qui étaient indicatrices de forêts anciennes. Certes, elles sont intéressantes, mais des fois, elles ne sont visibles que quelques semaines ou quelques mois, grand maximum, alors que les champignons, comme ce polypore, ils vont être visibles toute l'année. Et c'est en ça qu'ils sont intéressants. Les mousses et les lichens, c'est pareil. Il n'y a vraiment que par temps de grosses neiges qu'on ne peut pas faire le travail, finalement, d'expertise des forêts pour savoir si on est bien en forêt ancienne. Voilà, alors je vais pas trop insister, mais j'aimerais beaucoup évoquer aussi l'indice de biodiversité potentielle, qui est un outil qui va aider en fait n'importe quelle personne, notamment un propriétaire forestier, qui va l'aider à estimer en quoi sa forêt accueille ou non une forte biodiversité et comment éventuellement il peut jouer sur un certain nombre de facteurs pour améliorer sa biodiversité, sans forcément s'arrêter d'exploiter sa forêt. C'est ça qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il donne des pistes qui permettent de rallier un petit peu économie de la forêt et puis écologie. Et donc, sans être du tout un naturaliste. Et je vais vous donner quelques pistes, mais quelques facteurs comme ça, mais en fait, on prévoit probablement dans les mois qui viennent et les années qui viennent de s'impliquer dans la formation des propriétaires qui sont volontaires pour leur donner des pistes pour mieux intégrer la biodiversité dans leur gestion de tous les jours. Et donc, quand on arrive dans une forêt et qu'on veut savoir si oui ou non on peut accueillir encore plus de biodiversité, il y a quelques éléments très simples. L'élément le plus simple, c'est notamment, par exemple, la présence de bois morts, qu'ils soient debout ou couchés. Plus les bois sont de gros diamètre et plus on va accueillir de biodiversité. Il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas beaucoup bouger, mais c'est la présence de rochers, de falaises, de blocs à terre, de blocs à fleurants. Le fait d'avoir aussi de l'eau à tous les niveaux, c'est-à-dire soit sous forme de petites tourbières, soit sous forme de ruisseaux, de mares, tout ça a une grosse implication sur la biodiversité de cette forêt. Il y a évidemment le nombre d'espèces forestières qu'on accueille, d'essences forestières. C'est-à-dire tout le nombre d'arbres. Finalement, on fait juste un inventaire des arbres sans même les nommer. On peut déjà avoir une idée. Si vous n'avez qu'une espèce dans votre forêt, ben, vous accueillerez moins que si vous en avez 10. Il y a une très grosse importance aussi de la différence d'âge de votre forêt. Si vous avez une forêt qui a été plantée dans les années 60 et vous n'avez rien eu après, ben, vous n'avez que des arbres qui ont 60 ans ou 70. Et ben, c'est pas pareil que si vous avez des arbres de 10, 30 ans, 50 ans, 200 ans et 300 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratification verticale, à la fois des arbres de haut, de grande hauteur, de petite hauteur, également des strates herbacées, des strates arbustives, enfin, toutes les hauteurs de végétation qu'il y a dans une forêt ont une capacité d'accueil de la biodiversité. Un peu quelques détails, il y a d'autres points très importants, c'est les milieux ouverts dans cette forêt. Eh ben, on s'aperçoit que finalement, il faut arrêter de séparer la forêt des milieux ouverts, puisque les milieux ouverts sont pleinement intégrés dans le fonctionnement d'une forêt. On a plein d'exemples qui nous disent, ben, tel insecte qui vit à l'état de l'arbre dans le vieux bois, ben, sont à l'état adulte, il faut qu'il aille butiner des fleurs qui sont dans les milieux ouverts. Donc si vous n'avez pas des prés autour de votre forêt, si vous n'avez pas des clairières, si vous n'avez pas des talus, etc., vous avez une forêt qui fonctionne moins bien. Donc les milieux ouverts ont une grande, grande importance. Enfin, il y a quelque chose que Hervé a déjà évoqué tout à l'heure sur l'ancienneté de la forêt. On a aujourd'hui des outils qui sont les vieilles cartes de Cassini ou les cartes d'état-major qui permettent de faire de créer des cartes entre guillemets théoriques d'ancienneté de la forêt. C'est-à-dire, est-ce que s'il y avait la forêt en 1820 quand on a fait les premières cartes, et aujourd'hui, on peut dire, ben, il y a probablement une continuité de la forêt depuis cette époque-là. Mais c'est pas toujours sûr. Ça nous donne un indice. Donc, quand on regarde les vieilles cartes, si on avait la forêt à l'endroit où on était, on peut imaginer qu'on a quand même des restes de cette histoire forestière. Et enfin, le dernier truc le plus passionnant, et ça, c'est ce qui, ça peut vous inviter à farfouiller la forêt soit avec une loupe ou avec un naturaliste à vos côtés, c'est tout ce qui est les micro-habitats de la forêt. Tous ces espèces que l'arbre accueille ou tous ces accidents de la vie d'un arbre, eh ben c'est autant de portes ouvertes ou de logements qui vont être créés pour un grand nombre d'espèces. C'est tout ça qu'on appelle les micro-habitats de l'arbre. Et la détection de ces micro-habitats pose aucun souci. C'est très visuel. Il ne faut pas forcément connaître les espèces, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà, ça fait un peu inventaire la Prévert là, de tous les facteurs, mais on invitera probablement au cours des sorties animées par des gardes là, cet été ou plus tard au cours de formations destinées aux propriétaires forestiers, on invitera à se former à cet indice de biodiversité potentielle parce que je crois qu'il a vraiment un intérêt à la fois économique et écologique pour préserver des forêts d'avenir. Voilà, un petit, à partir du canadair luisant, comment j'en ai dérivé à l'indice de biodiversité potentielle, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Voilà, à bientôt.
À bientôt. Vous êtes toujours sur Radio Bartha 107FM. Merci d'avoir suivi cette émission, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Palabre en forêt. D'ailleurs, si vous avez un sujet en particulier que vous souhaitez qu'on aborde, eh bien, n'hésitez pas à nous faire un petit message à l'adresse mail suivante corto@radiobartas.net. À bientôt Margot.
À bientôt, au revoir à tous.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligaud, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.